Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Eric, Lolo, Blu Blu. C'est la numéro 40, mes amis.
Roll Mops 88.3 FM.
Bienvenue à tous.
Comme ça, on l'aura dit au moins une fois.
Radio Campus, oui, bien sûr.
On a un peu tendance à l'oublier, effectivement.
Ouais, oui. On n'est pas corporate.
Non. Et cette fois-ci, bah, comme les autres fois, alors toi, Bubu, tu nous as mis que des groupes américains.
Oui, je vous ai mis que des groupes américains. Oui, tout à fait. Parce que j'aime bien les Américains, c'est eux qui nous ont sauvés en 1945.
Si les Américains n'étaient pas là.
Voilà, c'est ça. Et
donc,
c'est tout.
Quel hommage.
Bon, voilà. C'est un peu eux qui ont créé le rock'n'roll.
Voilà. Un petit peu, oui.
Voilà. Entre nous.
Et toi, Riri, tu nous as venu de l'américain et un Londres. Hein,
ouais, il faut bien un petit peu. Ouais. Hein.
Moi, j'ai mis un peu d'américain aussi. J'ai mis un Londres aussi. Moi, je vous emmène donc à Memphis en 1929. À Londres en 71, donc pour toi, Londres en 81. En Sierra Madre, Californie en 1991. À Tours en 2022 et à Chambolive en Corrèze en 2022.
Chambolive.
Alors, pour les autres, San Diego 2018, New York City 2009, Austin 2009, New Haven dans le Connecticut 2023, Brooklyn 2003, LA en 59 et Long Island en 1981. Voilà pour le voyage aux Stats.
Exactement. Et puis, je crois que nous allons commencer effectivement par les stats, puisque c'est moi qui commence.
Absolument.
Et vu que je ne vais qu'aux stats.
Voilà, très bien.
Alors, moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est deux morceaux de punk rock. Alors, punk rock,
c'est étonnant.
Oui, mais dans l'appellation punk rock, pas celle avec des skateboards, celle avec des gens qui ne sont pas spécialement très intelligents.
Et qui ont les cheveux sales.
mais qui nous permettent de sauter partout au concert et puis de se prendre des grandes calottes de. Calotte de décibels dans les oreilles.
Bien sûr.
Je parle d'une nouveauté puisqu'il s'agit des Killer Kin. Les Killer Kin, oui, c'est un groupe qui nous vient de New Haven dans le Connecticut. Donc, ils se prétendent être les descendants d'Arthur Killer Kin, le bassiste des New York Dolls, d'où le nom, voilà. Et qu'avec eux, le rock'n'roll se sent à nouveau dangereux.
Encore New York Dolls.
Voilà, parce qu'au fait, il y a un peu un leitmotiv dans le punk rock, pour les labels qui les distribuent, c'est de dire. Nous avons enfin le groupe qui relance le punk rock comme on l'a jamais entendu. Bon, il s'avère que, vous allez vous en rendre compte, tous les deux ans, on a la même histoire.
Ce qui est assez marrant, c'est la référence à Arthur Killer Kane, qui a quand même fini sa vie, il était témoin de Jéhovah, il faisait plus que ça, quoi.
Ah mais Jéhovah jouait de la Gibson Flying V.
Voilà.
Vous le saviez pas. En tout cas, donc les Killer Kin. Alors, donc c'est un couple, c'est Mathiléa, donc qui est plutôt du genre Manowar, à porter des slips en peau de fourrure et puis être bodybuildé avec des tatouages. Et puis sa femme, donc la très très belle. Voilà, sa femme Chloé Rose, qui est vraiment très belle hein, pour le coup. Elle, je pense qu'elle est beaucoup plus belle qu'elle joue bien de la guitare. Paf, ça y est, là, je vais avoir l'auditrice de la source qui va me donner. Mais c'est la réalité. Donc on n'y peut rien. Donc qui décide de former un groupe en 2018. Et puis du coup, bah il se trouve trois autres comparses pour monter le gang. Ils s'appellent donc les Killer Kin et puis ils sortent un premier 45 tours en 2021. Qui a été notamment sorti sur le même label Peak Baby Records que celui des Schizophonics hein, que Lolo tu as déjà passé.
Excellent.
Et puis voilà que le premier album éponyme est sorti en avril dernier sur le label Deadbeat Records. Donc c'est un label éponyme, hein, un album éponyme. Et en fait, je vous propose d'écouter le premier titre de cet album qui s'appelle Mr. Dynamite. Et ils seront enchaînés par un autre groupe américain que je vous présenterai un petit peu après. Voilà, donc je vous propose qu'on y va.
Ça vous va? Let's go.
Let's go.
Spin
Eh bien voilà deux titres qui matchent très bien ensemble, mon ami.
Exactement. Et vous savez quoi? Il y a 20 ans d'écart entre ces deux morceaux, puisque c'était donc les Killer Kin qui étaient enchaînés avec les Getaways avec le titre California, tiré de leur premier album éponyme, sorti à quelques mois après, à 20 ans d'écart, en 2003. Voilà. Eux, les Getaways, ils viennent de Brooklyn, donc vous voyez, ils sont un peu moins ruraux quand même que les Killer Kin. Ils jouent aussi mal de la musique, mais par contre, c'est super bien.
Et
donc,
le batteur, il joue de manière particulièrement bourrine.
Oui, tout à fait. Oui, mais c'est pas grave.
Et le producteur s'est dit, tiens, si on le mettait encore un peu plus fort pour que tout le monde entende bien à quel point c'est un sauvage.
Mais voyez-vous, je préfère le son des Getaways à celui des Killer Kin. Quitte à faire dans le crade, autant être crade.
Là, ils y sont, franchement.
Et puis, il y a des chœurs de la plus élégante manière.
Tout à fait. Et puis, c'est classique, hein, mais bon, bref.
Ah, bah oui,
et donc, ça bastonne. Donc, les Getaways, c'est un trio, donc encore avec une fille, Jenna Yu, qui fait guitare et puis chant, son mari à la basse et à la voix Shane Young, et puis le batteur Harry Warwick. Donc c'est sorti sur Alien Snatch Records, et puis figurez-vous bien sur le label, quand c'est sorti, c'était la révélation qui sauvait le rock'n'roll à ce moment-là. Donc voilà, donc ce qui est vraiment bien avec le punk rock'n'roll, c'est que depuis 1974 jusqu'à nos jours, eh bien vous avez toujours la même chose, voilà. Et bien ça c'est bien, c'est la tradition, et la tradition, moi je vous dis, ça a du bon.
C'est comme la rengaine de, on dirait du MC5.
Exactement.
Ah c'est MC5, voilà. Ah, c'est MC5.
Exactement.
Dès qu'il y a deux guitares et un peu de jeu de scène, c'est c'est MC5.
Et mon cher Lolo, quand on a des bons produits, tout se passe bien. Donc voilà, c'était les Killer Kin et les Getaways pour ce début de la Roll Mops numéro 40 sur Radio Campus 88.3. Et maintenant, je passe la main à notre cher professeur Lolo.
En avant.
Mes chers amis.
C'est en 1982.
Oui, je crois pas si bien dire.
1929, tu dis.
Ah oui, et puis oui. Là, je vais vous parler d'une dame. Alors, je dois vous avouer que je ne la connaissais pas. J'y suis venu parce que, effectivement, elle a écrit quelques morceaux connus. C'est une dame qui s'appelle Lizzie Douglas. Elle est née en 1897.
Ah oui, quand même.
Oui, ça commence à faire, hein. Est décédée en 73 à l'âge de 76 ans.
Et c'est la mère de Pierre Douglas,
le
célèbre imitateur des années 70 sur TF1.
Qui a repris tout à fait dans la même veine d'ailleurs.
Mais tout à fait.
Excellente imitation d'ailleurs, hein, Pierre Douglas.
C'est le genre de Georges Marché, vous savez. C'est un scandale.
Ah, je vais pas y arriver aujourd'hui. Donc Lizzie Douglas, elle est mieux connue un petit peu mieux connue sous le nom de Memphis Minnie. C'était une des rares femmes guitaristes, chanteuses et compositrices de blues, hein, très proche de Big Bill Brownsie. Vous connaissez Big Bill Brownsie?
Tout à fait.
Ouais. Donc qui était de lui-même, hein, de Memphis.
Et très proche de Memphis Mickey aussi.
Memphis Mickey?
Ouais, Memphis Mickey, Memphis Minnie.
Ah, voilà. C'est une ligue. C'est une ligue.
C'est ça.
J'essaie de voir si je pouvais faire pire, mais ouais, je pouvais. Ouais.
Tu penses que Memphis Minnie avait des chaussures un peu trop grandes pour elle, des chaussures à talons un peu trop grandes pour elle. Voilà, donc chanteuse, excellente guitariste, hein, on va le voir. Guitariste, chanteuse et compositrice de blues. Sa carrière d'enregistrement a duré plus de 3 décennies, donc des années 20 aux années 40. Elle a enregistré environ 200 chansons, et notamment sur une dizaine d'années, elle a enregistré avec son mari, hein, Kansas Joe McCoy. Et là, je vous parle d'un morceau, hein, que j'ai choisi pour ce Last But Not Least. Il s'agit d'un morceau qui s'appelle When the Levee Breaks. La chanson dont le titre signifie Quand la digue se rompt, hein, casse, a été écrite à la suite. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Moi, je connaissais cet événement. Les bouleversements causés par la grande crue du Mississippi en 1927.
Qui est mise en image dans le film Oh Brother des frères Cohen.
Tout à fait. Qui provoqua l'inondation la plus catastrophique de l'histoire des États-Unis. En fait, il y a eu la destruction de près d'une centaine de digues. Sur le Mississippi, et les torrents de boue résultants provoquèrent la mort de plus de 500 personnes et surtout le déplacement forcé de 500 000 personnes.
Et je crois que le pseudo Muddy Waters se vient également de cet événement.
Mais absolument, absolument. Parce qu'effectivement, ils allaient migrer vers Chicago, notamment. Donc c'est ce que raconte, hein, cette chanson, hein, « Sorry but I can't take you, going down to Chicago ». Donc c'est ça. Alors le contraste entre le propos et la forme, vous allez voir, hein, c'est très très sautillant. When the Levee Breaks par Memphis Minnie et Kansas Joe McCoy. On va écouter ça.
Levee's going to break. If it keeps on raining, levee's going to break, and the water gonna come, and I have no place to stay. Well, all last night I sat on the levee and moaned. Well, all last night I sat on the levee and moaned, thinking about my baby and my happy home. If it keeps on raining, levee's going to break. If it keeps on raining, levee's going to break. And all these people have no place to stay. Now look here, mama, what am I to do? Now look here, mama, what am I to do? I ain't got nobody to care my troubles to. I works on the levee, mama, both night and day. I works on the levee, mama, both night and day. I ain't got nobody keep the water away.
Keeps on raining, levee's gone. Breaks, have no place to stay.
breaks, oh mama, you got to move. Oh, last night I sat on a living moan. Oh, last night I sat on a living moan. Oh, thinking about my baby and my happy home.
Un improbable montage. Bravo, c'est du bon boulot ça, Bubu.
Merci beaucoup. Beaucoup. C'était pas évident. Hein, au
ah
début,
non,
je t'avoue
non,
que...
non, je t'avais mis un challenge là, et ah, tu l'as bien relevé.
Trois versions.
Ah oui, oui. Il n'y a rien à voir les trois versions. Vous avez probablement reconnu, après Memphis Minnie, la version originale, donc très sautillante, comme on l'a vu. Une autre manière de faire du blues, c'était Led Zeppelin, bien sûr, avec le même titre, hein, When the Levee Breaks. Donc la chanson était adaptée donc, de Memphis Minnie, avec des paroles modifiées en partie, et une mélodie complètement différente d'ailleurs. Hein. Donc c'est le dernier morceau du fameux Led Zeppelin 4. Plant et Page ne sont d'ailleurs pas privés de signer le morceau de leur nom, hein, comme ils faisaient souvent.
Ah, ça. Ouais, on va pas s'emmerder en plus.
On change quelques paroles.
Il faut commencer à respecter les compositeurs originaux.
Alors ce morceau est très connu parce que sur cette version, le son hyper puissant de la batterie. Hein. Tout le morceau est complètement calé sur la batterie. D'ailleurs, la guitare et l'harmonica sont, je dirais pas secondaires, mais viennent servir en fait la batterie. Alors en fait, l'ingénieur du son, il l'a enregistré en plaçant en bas d'une cage d'escalier la batterie de John Bonham. Et il a placé deux micro super sensible tout en haut de la cage d'escalier. Et c'est comme ça qu'on a ce son qui est à la fois résonnant et étouffé. Alors cette partie de batterie, elle a été beaucoup samplée par la suite, hein, notamment par les Beastie Boys. Je suis allé écouter le morceau, un morceau qui s'appelle Rimming and Stealing. D'ailleurs, ils ont été emmenés en procès par les Zeppelin, bien sûr. Hein.
Par contre,
alors là, pourquoi dans ce sens-là, ça marche bien. Ouais. Et étonnant aussi, dans ce morceau, en fait, Jimmy Page dit que, et on l'entend quand on écoute bien, en fait, toutes les parties d'harmonica et de guitare ont été enregistrées en bande à l'envers. Et ça s'entend parce qu'il y a des sons super bizarres, des zoup, zoup, zoup. Et en fait, ça donne un espèce d'effet complètement hypnotique, et donc laisse la batterie très très fortement en avant. Donc voilà, When the Levee Breaks par Led Zeppelin.
Tu as déjà écouté la version de la reformation de Led Zeppelin avec les trois sans bonhomme, mais avec Neil Young qui joue avec eux pendant 9 minutes sur cette chanson-là. Et Jimmy Page ne fait que la rythmique pendant les 9 minutes.
Oui, je connais.
Et Robert Plant vient prendre des solos, ce qui est à la guitare, ce qui est totalement inédit.
Oui.
Version assez incroyable.
Oui, c'est vrai. Moi, je connais une version avec Neil Young, mais en 78.
Là, c'est en 95.
Ouais. Ouais, il vient les rencontrer sur scène. Ouais. Et donc, tu as enchaîné ça avec la copie de Led Zeppelin, c'est Dread Zeppelin, bien sûr, groupe américain formé en 89 à Sierra Madre en Californie. Donc, caractérisé par un mix improbable entre des reprises de Led Zeppelin, le reggae et Elvis Presley.
C'est ça.
Voilà. Emmené par leur chanteur Tortelvis, hein, qui s'appelle Greg Tortel. Tortelvis. Pas Tourtel, hein, c'est Tortel. Ils ont fait en tout 9 albums solo et 3 lives entre 1990 et 2011. Et When the Levee Breaks provient de leur deuxième album, très modestement intitulé 5 Million. Tortelvis fans can't be wrong. Quand on a 5 millions de fans de Tortelvis, bon, il ne peut pas se tromper. Hein, c'est genre. Voilà donc trois versions extrêmement différentes d'un même morceau. Et on reste dans l'esprit blues. Hein.
Ouais. C'est ça.
Voilà. Très bon harmoniciste hein, d'ailleurs dans Dread Zeppelin.
Tout à fait.
Oui, il est très bon.
J'ai bien aimé aussi les chœurs dignes des. digne des Whalers derrière.
Oui, c'est ça, yo yo Chicago.
Excellent. Super bien. Bravo.
Voilà. Et ben voilà, et on enchaîne. Et ben on va changer un petit peu, on va aller faire du rhythm and blues, hein. Ça nous changera un petit peu.
Sûr.
Alors, est-ce que c'est du rhythm and blues? J'ai toujours un peu de mal avec cette appellation. Bon, je propose de faire la connaissance du chanteur-guitariste d'un chanteur-guitariste peu connu dans nos contrées. Alors on a eu droit tout à l'heure à Memphis Mini, à Kansas Joe McCoy. Là, je vous propose Black Joe Lewis.
Pas mal.
Voilà. On sent
non, il y a toujours le nom de la ville quelque
voilà.
part.
Donc là, donc lui, il aurait pu s'appeler Tucson Joe Lewis parce qu'à l'origine, il est né là-bas, à Tucson, Arizona. Donc il a développé un jeu de guitare singulier mêlant les fondamentaux du blues, du funk avec un son très nerveux, lorgnant parfois vers le garage. Donc chez lui, les influences, on retrouve Albert King, Owlin' Wolf, Early Burnside, etc. En 2008, il réunit autour de lui un groupe nommé The Honey Bears, donc les nounours en sucre, en miel, et enregistre un premier album en 2009. Donc désormais basé à Austin, Texas, Black Joe Lewis et les Honey Bears bénéficient d'une réputation scénique prometteuse et traversent l'Atlantique pour venir jouer en Europe. En 2010, peut-être certains de nos auditeurs auditrices l'ont peut-être vu au Printemps de Bourges. J'ai découvert ça, qu'il avait joué là-bas sur une soirée où il y avait John Butler et Rodrigo et Gabriela, donc tout est possible. Bon, pour ma part, je les ai vus à Lyon sur cette même tournée à l'épicerie moderne, très belle salle de Faisin, dans un concert mémorable sur lequel il avait terminé sur I Got a Ride des Stooges, avec des cuivres, donc vous allez écouter ça, c'est plein de cuivres. Donc depuis, un parcours assez erratique, mais quand même 5 albums. Voilà, mes trêves de blabla, le mieux c'est d'écouter donc ce titre, issu de l'album Tell Em What Your Name Is, avec des cuivres rutilants des Honey Bears. Et dans la foulée, on ira écouter les pionnières du heavy féminin, une bonne grosse offensive rock'n'roll, voilà. Donc tout de suite, on écoute Boogie de Black Joe Lewis and the Honey Bears.
Let's go. We'll be right back.
cheesy motel.
Woke up drunk, you know I felt like Eskimo Nell. Ha!
Please don't touch, I shake so much. Please don't touch, I shake so much.
Don't you touch me, baby, cause I'm shaking so much. Don't you touch me, baby, cause I'm shaking so much. Don't you touch me, baby, cause I'm shaking so much.
Ça me rappelle mes 13 ans, dis donc.
Eh ben moi, pareil, en fait, j'avais pas du tout prévu de passer ça. Et puis, tout d'un coup, je l'ai écouté par hasard. Et je me suis dit, oh, faut que je partage ça, ça va me rappeler quand j'avais 13-14 ans. Et oui, vous avez certainement reconnu donc, la voix masculine. Mais avez-vous identifié les furieuses qui font surchauffer cette reprise de Johnny Kidd and the Pirates?
Oui, les Girls' School.
Girls' School, exactement. Donc, 4 femmes, Enid Williams à la basse, Kelly Johnson et Kim McAuliffe au guitare et au chant. Et Denise Durfort à la batterie. Donc Girls' School, un groupe fondé à Londres au milieu des années 70. Elles ont bénéficié donc du soutien de Motorhead hein, comme, pour percer dans le milieu très macho du heavy britannique.
Surtout à l'époque.
En 81, elles enregistrent donc cette chanson qu'on vient d'écouter avec Lemmy Kilmister et Fast Eddie Clark dans le cadre du projet Head Girl. Donc en fait, c'était un projet temporaire suite à la convalescence du batteur Phil Taylor. Qui lui s'était cassé le cou en jouant au plus costaud. L'histoire a l'air d'être complètement débile. Vous voyez ce genre de truc là où les mecs sont bourrés. Tiens, je te soulève au-dessus de ma tête et je te jette en avant.
Ouais, voilà. Ouais, alors après, Filthy Animal. C'était peut-être autre chose.
Voilà, donc c'est sorti sur un EP commun intitulé St. Valentine's Day Massacre. Donc voilà, c'est pas de la pop indé, c'est du rock'n'roll qui tâche, mais ça fait toujours plaisir d'entendre des groupes féminins qui rivalisent avec les poilus sur leur terrain. Et puis bon, Girls' School a décomplexé et inspiré bon nombre de groupes de femmes nerveuses. Donc pour ça, alors on te dit merci.
Exactement, très bien. Alors, moi je vais vous parler, je fais le lien avec la Rollmops 39 où, souvenez-vous, j'avais proposé Summertime Blues d'Eddie Cochrane et je vous avais parlé de Cochrane en tant qu'excellent guitariste.
Oui.
Et j'avais évoqué le Eddie's Blues. Eh bien oui. On va l'écouter.
Et bien d'abord.
Donc le Eddie's Blues, coécrit hein, par Cochrane et puis le fameux Jerry Cap-Hart à Los Angeles. Et donc enregistré en 59, je vous rappelle que Eddie décède en avril 1960. Il ne sortira ce titre qu'en sur un 45 tours aux États-Unis en 64 et dans le reste du monde en 72 sur la compilation Legendary Master Series sur Liberty. C'est la fameuse compile qu'on pouvait trouver avant dans les vides-greniers très facilement avec une photo d'Eddie Cochrane en train de jouer et puis il est argenté et puis noir ce disque. Donc voilà, donc là vous allez pouvoir entendre justement toute la qualité guitaristique de notre ami Eddie Cochrane avec sa Gretsch 6120 branchée sur un Dual Showman Fender. Et puis ça sera enchaîné avec son illustre son seul véritable héritier Brent Setzer d'Estrecats. Oui. Également même guitare, même ampli. Bon, il y aura juste une trentaine d'années entre les deux mais ça se marie très bien. Donc on y va avec le Eddie's Blues right now.
voilà du virtuose. Hein.
Et voilà, chers amis.
Ça alors, tricote.
Ça tricote. Et surtout la similitude. Hein, le twang de la gratte, le côté disto, enfin crunchy, la dextérité du genre de rockabilly. Voilà, c'était donc Eddie's Blues enchaîné avec les Stray Cats, tiré de leur deuxième album. Qui est sorti la même année que le premier, en 1981. Cet album s'appelle Gonna Ball et le titre s'appelait Crazy Mixed Up Kids. Alors donc les Stray Cats se sont formés en 79, donc tout à l'heure j'ai dit 30 ans entre Cochrane et Setzer, non il n'y a que 20 ans. Et tout à l'heure, vous souvenez-vous, les Killer Keen et Gateways, il y avait 20 ans, c'est à peu près pareil. Là, entre Cochrane et Setzer, il y a quand même un petit... On voit ce qui s'est passé, quelque chose entre les deux. Le punk, je crois, et les Stooges, peut-être, entre autres. Voilà, et donc tiré de ce deuxième album, alors autant on les connaît sous le premier, hein, avec Stray Cats, bon, qui est quand même largement pompé à Blank Generation quand même, hein. Quand vous écoutez les deux, vous verrez la similitude. Mais Rock This Town également, Runaway Boys. Et tout le monde pensait que c'était les Anglais, pas du tout, c'est les Américains. Ils sont formés à Long Island en 79 sous le nom de Tomcat. Et puis au fait, ça marchait pas super bien, donc ils partent en Angleterre. L'Angleterre qui commençait qui connaissait bien le rockabilly avec la vague des Teddy Boy, avec des groupes comme les Crazy Cavan par exemple. Et puis surtout, il y avait des petits jeunes, les Meteors, qui commençaient à faire un psychobilly, enfin rockabilly un peu psychotique, qu'ils ont appelé eux-mêmes le psychobilly. Ils avaient des badges marqués Only the Meteors Play Psychobilly. Et puis donc les Stray Cats arrivent, donc eux ils sont pas du tout psycho, ils sont plutôt virtuoses, hein, évidemment, et sauf que ça marche à mort. Et puis c'est Dave Edmonds du coup qui produit leur premier album éponyme, et numéro 1 en France pendant, je crois, pas loin de 14 semaines. C'est assez, c'est quand même un gros record. Et puis donc ils sortent dans la foulée, donc à la fin de l'année, le deuxième album qui marche moins bien, mais malgré tout les Stray Cats restent un groupe plutôt adoré en France. Ils split en 84, se reforment en 87, notamment j'ai pu les voir à la Fête de l'Humanité, et je crois, mon cher Lolo, que
nous
tu y étais
aussi. Tu étais un enfant à l'époque.
Bah non, j'avais 18 ans ou 19 ans, je sais plus.
Voilà, parce que oui, c'est ça.
J'étais majeur, j'avais le droit de voter. Voilà, donc c'était ça. Donc un petit passage rockabilly virtuose, ça me fait bien plaisir.
Ah ben ouais, ça fait bien plaisir aussi, ouais.
On va passer à complètement autre chose, mon cher Bubu.
Oui, on va passer du côté de l'anti-rock.
Mais on revient en France, du coup.
Eh ben, c'est peut-être lié, je crois. Non,
c'est ça, oui.
Faut-il y voir un lien ?
Donc, on va écouter Trust, bien sûr, hein, suivi de Téléphone. Voilà. Non. Deux groupes, ils me sont revenus à l'esprit parce que je me suis dit, bah, tiens, voilà, qu'est-ce que j'ai écouté pour moi d'intéressant et d'original ? Eh ben, j'ai pensé à deux groupes qui sont effectivement en marge du rock and roll qu'on vient d'écouter. Et ce sont deux groupes que j'ai vus sur le ponton en 2022, donc anciennement la Sardine, donc la guinguette en bord de Loire. Et j'avais été très impressionné, j'ai acheté les disques après bien sûr, très impressionné par leur maestria musicale. Hein, c'est d'excellents musiciens les deux. Alors, premier groupe, s'appelle Rank O, groupe de Tours. Rank O écrit des chansons à tiroir. Hein. C'est entre l'indie rock, le synthé pop, garage et post-punk. Bon, c'est assez inclassable.
Hein. Garage, non.
Il y a des morceaux, qui sont. En fait, c'est le son de la guitare qui fait penser au garage.
Peut-être.
C'est assez inclassable. Donc, je trouve que c'est à la fois naïf et torturé. Hein. C'est-à-dire que c'est des compositions un peu bizarres. On se demande où ils vont. Et en même temps, ça paraît très simple. C'est assez bizarre.
Ça rappelle un petit peu Yes quand même.
Non.
T'exagères un peu.
Les meilleurs moments de Yes. Les meilleurs moments.
Il n'y a pas de meilleur moment de Yes.
Le premier disque, il n'est pas si mal.
J'aime pas.
Tu me feras une cassette.
Oui, c'est.
C'est les meilleurs moments de Yes.
Voilà. Parce que 41 pas, ouais. Sera une spéciale Yes.
Une cassette chrome, hein, s'il te plaît, ouais. 120.
Ouais. On doit déjà faire une spéciale reggae en plus. Oui. Une spéciale Yes.
Et ben Yes reggae.
On va perdre tous nos auditeurs là. oui, donc je disais, ils sont tous multi. Ah, c'est impressionnant, ils jouent tous de tous les instruments et ils sont tous virtuoses. Je crois qu'ils sortent de l'école de musique de Tours, à ce qu'on m'a dit. Où ils ont appris effectivement à jouer extrêmement bien.
Et donc pas du rock.
Et laisse tomber avec ton rock, toi. C'est une forme de rock. C'est du post-punk, du garage et du synthé-pop et de l'indie rock. Voilà. Donc, et très impressionnant sur scène. Hein. Alors, ils ont à leur actif deux albums, donc Rank O en 2019 et De Novo en 2022. Et l'autre groupe, alors l'autre groupe, il est différent mais différemment. C'est pas du rock'n'roll non plus. C'est un trio de rock psychédélique mais avec deux particularités. C'est qu'il y a une vielle à roue. Mais alors attention, on n'est pas dans le registre de la bourrée du tout. Au contraire, c'est plutôt utilisé comme une guitare. C'est très saturé. Et surtout, également, on se dit, mais quelle est la langue dans laquelle ils chantent ?
Eh bien,
c'est
occitan.
De l'occitan, tout à fait. Ouais. Ils sont eux-mêmes donc originaires de Chambourlive, en Corrèze.
Sur le plateau de Mille Vaches.
C'est ça, voilà. Enfin, en tout cas, leur musique, moi, je trouve ça très lumineux, avec là encore un chanteur-batteur hors pair. Et là encore, extrêmement impressionnant sur scène, un trio, donc guitare électrique, vielle à roue, chant. Et donc, Brahma a sorti leur premier... Quand je les ai vus, ils n'avaient pas sorti leur album. Ils ont sorti leur premier album, donc, à la fin 2022. L'album s'appelle La Glane. Donc, on écoute Ranko, Elena, album De Novo en 2022, mais j'avais préconisé une version live studio du morceau Elena, et Brahma va chanter et jouer Ma Gioia, album La Glane en 2022. On écoute ça.
Allez. We'll be right back.
Eh bien, ça me fait penser à King Gizzard, ce truc.
Oui, c'est vrai.
Effectivement.
Donc, on a écouté d'abord Rank O, morceau Elena, l'album Des Nouveaux en 2022. Puis, on vient d'écouter tout juste Brahma, donc avec ce chant en occitan. On a écouté donc Majoya et on... la Via Larousse est insoupçonnable. Hein. On ne reconnaît pas cet instrument,
non,
en fait. Hein.
Clairement pas,
c'est utilisé comme un bourdon, en fait, hein, par rapport à l'autre guitariste. Voilà pour moi.
Eh bien, écoutez, il va être temps de se dire au revoir avant de passer la main pour la fin à notre cher DJ Lombric. Donc, la prochaine, c'est la 41. C'est donc dans 15 jours, le 26 juillet. Et après, ce sera les vacances.
Et voilà.
On se fait des bisous. À vous, mes chers.
Eh ben, nous, on va finir sur une note un peu triste. Vous avez peut-être appris, il y a deux semaines, l'annonce du décès de Rick Froberg, dont le leader des Drive Like Jehu et des Hot Snakes, deux groupes dont j'ai déjà parlé ici en citant notamment John Speedo Rice. Donc voilà, c'est d'ailleurs lui qui a annoncé donc, ce décès brutal à 55 ans. Hein, donc on a l'habitude de parler de ceux qui meurent très âgés, mais il y en a aussi qui meurent un peu tôt. Donc ben, pour rappeler, Drive Like Jehu, donc, monté en 91, groupe de post-hardcore qui, pour les fans de post-hardcore, reste un groupe essentiel. Je pense à nos collègues de Tentaculation, le lundi soir à 22h sur Radio Campus Orléans.
Et oui.
Eux, ils en sont à la 384e émission, hein, j'ai vérifié tout à l'heure. Voilà, donc, et puis les Hot Snakes, donc autre projet donc, qu'il avait monté en 2000, donc avec Speedo également. Donc voilà, une petite envie de lui rendre hommage. Alors, je vais d'abord vous passer un morceau de son projet le plus punk qu'il avait monté à Brooklyn, donc qui s'appelle Hobbits, O-B-I-T-S. C'est extrait de leur premier album en 2009, et puis on écoutera rapidement une bonne grosse sauvagerie envoyée par Rick Froberg et toute sa bande, qui est extrait du dernier album des Hot Snakes. Il venait juste d'annoncer qu'il y aurait un cinquième qui allait arriver, donc on espère quand même qu'il y aura un cinquième album. Voilà, on écoute Rick Froberg et on se dit à dans deux semaines.
C'est ça, sur Radio Campus 88.3, Roll Maps.